Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur VOA Afrique, c'est Sporama comme tous les lundis soirs. On va refaire l'actualité sportive, les analyses, les résultats et vos commentaires. Bien évidemment, chers auditeurs, on vous donne la parole comme chaque semaine. Le numéro de téléphone, toujours le même, le 001 202 205 26 33, 001 202 205 26 33, Fred Ner Kayemit et Georges Léonard Sagnot derrière la vitre pour prendre vos appels. On va saluer nos intervenants habituels dans cette émission. Partons à Libreville, retrouver Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer à Boïcon Bénin, celui qui vous fait vivre l'actualité sportive tous les lundis matins sur VOA Afrique. Il s'agit d'Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis sportifs de la VO Africa.
On va à présent à Kinshasa retrouver Thierry Kambundji, Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on va saluer à Dakar, Amdine Sy qui est avec nous. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de l'Afrique.
Et à ma gauche dans ce studio, on va saluer Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, on va évidemment parler longuement, hein. On va être amené à parler de ce sujet. C'est notre premier thème ce soir, bien évidemment, la Ligue des Champions. J-1 avant le grand choc, hein, au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain, 2 buts de retard à remonter face au Real Madrid. Alors pour les plus jeunes, il y avait évidemment ce match de 93, hein. On s'en souvient, même scénario, défaite à Santiago Bernabéu 3-1, et là l'incroyable Paris Saint-Germain. À l'époque on avait notamment Georges Weah, hein, qui était sur la pelouse, Antoine Camboire qui marque ce but victorieux, 4-1. Alors est-ce que les Parisiens vont nous faire leur remontada? On sait qu'évidemment ils sont privés de Neymar, certains disent que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, que ça va permettre à l'équipe de fonctionner différemment. Yacouba Ouedraogo, vous votre avis sur ce match tant attendu demain soir au Parc des Princes?
Alors moi je vois ce match-là sans Neymar, hein. Il y a deux choses à faire, soit s'asseoir et pleurer l'absence du Brésilien, ou bien voilà remonter les trousses et puis se dire que sans Neymar, Paris peut faire quelque chose. C'est vrai qu'avec Neymar, Paris est assez fort, mais je me dis que ça fait aussi de la place à un joueur comme Angel Di Maria qui est en pleine forme. Seulement, Angel n'a pas cette possibilité de porter toute l'équipe comme Neymar le fait très souvent sur le terrain. Et donc il appartiendra, disons, aux Parisiens de se souder. Il faut jouer en bloc équipe. Aucune individualité ne permettra, bien sûr, de se sortir d'affaire. Et je pense que lorsque le Real n'a pas la balle, eh bien, le Real est mal en point parce qu'il n'aime pas trop défendre, il n'aime pas trop courir derrière la balle, les Madrilènes. Et donc, il appartiendra à Paris de prendre le match en main, surtout que le Real, certainement, ne va pas tout de suite attaquer parce que il faudra, pour Paris, hein, il faut marquer le plus tôt possible, je me dis. Sinon, si ça traîne, eh bien, les Madrilènes vont prendre confiance et ça pourrait faire mal.
Ouais, et puis on l'avait vu, hein, sur la première mi-temps, le PSG qui avait fait jeu égal, hein, qui avait même ouvert le score par Rabiot à Santiago Bernabéu. Thierry Kambundji, il y a aussi la question de Thiago Silva, hein, le capitaine, hein, qui n'avait pas disputé le match aller. Est-ce que il faut faire revenir le Brésilien selon vous, puisque depuis 15 jours, il a fallu digérer aussi, hein, cette sortie du groupe pour ce match si important. Pas facile pour un capitaine.
Pas facile du tout, d'autant plus que Thiago Silva n'avait pas digéré le choix de Emery, son entraîneur, de le laisser sur le banc et de lui préférer Quinton Bé pour commencer à Santiago Bernabéu. Je pense que pour le moment, le coach du Paris Saint-Germain a besoin d'un bloc solide, d'un bloc uni avec un seul objectif. Comme l'a d'ailleurs si bien dit depuis ce matin le compte officiel Twitter du Paris Saint-Germain, ensemble on va le faire. Hein. Le Paris Saint-Germain qui a carrément changé le nom de son compte Twitter, c'est vous dire la détermination des Parisiens à inverser la tendance chez eux demain. Donc le choix de Thiago Silva, je pense qu'il va gagner le match. Unai Emery ne voudra pas se mettre un autre joueur cadre du vestiaire dans le dos. Mais on n'a pas Neymar. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que son absence libérerait par peut-être certains joueurs. Moi, je pense, je ne vais pas dans ce sens-là. Quand on a un garçon comme Neymar, il sait à lui seul faire la différence, même si on lui a reproché de jouer trop individualiste lors du match aller. Quand on a un garçon qui a marqué 28 buts et offert 27 décisives, toutes compétitions confondues,
depuis le début de la saison, manquer Neymar, c'est quelque chose de difficile à digérer. Mais on va voir, Angel Di Maria a montré sur les 2-3 dernières journées du championnat qu'il peut porter l'équipe, qu'il marque des buts positifs depuis plusieurs semaines. Voyons voir ce que ce pari-là va donner, mais je pense que les Parisiens peuvent le faire, même si pour le moment, le Real Madrid est en grande confiance. Et en plus, Zinedine Zidane a récupéré tous ses blessés, Marcelo, Toni Kroos et Modric se sont très bien entraînés. Donc c'est un match qui commence très très difficile pour les Parisiens.
Et oui, l'autre match demain soir, hein, c'est bien évidemment Liverpool face au FC Porto. Alors là, Amdinsi, a priori, il n'y a pas photo. Victoire 5-0 à l'aller, ça a été dur. Évidemment pour les Portugais, notamment Vincent Aboubakar, hein, le Camerounais qui joue dans ce club du FC Porto. Et on avait eu évidemment les buteurs africains, Sadio Mané et Mohamed Salah, hein, qui avaient cartonné, a priori, rencontre assez sans enjeu, on va dire, pour Liverpool. Amédine, vous m'entendez ?
Le Porto 5-0 à l'extérieur, il fallait le faire et ils l'ont fait et les Africains ont brillé. Je pense que pour ce match retour, Jurgen Klopp va quand même gérer ce match. Il peut même se permettre de faire tourner son effectif puisque actuellement les matchs sont tellement nombreux et on est dans une année de Coupe du Monde. Il peut faire tourner son effectif. Je pense que Liverpool s'est qualifié de fort belle manière, même si la seconde manche reste à disputer demain, c'est déjà fait. 5-0, la remontada est impossible pour les Portugais, Nicolas Pignon.
Ah oui, évidemment, la remontada, on n'en parle même plus là, pour les Portugais. En tout cas, on va suivre évidemment ça. On annonce aussi les matchs de mercredi, Manchester City, FC Bâle, là encore 4-0 à l'aller. Les Anglais devraient se qualifier. Et puis, évidemment, le duel, hein, Tottenham, les Spurs, hein, 2-2, qui avait décroché un beau match nul en Italie face à la Juve. On va voir si les Italiens vont pouvoir renverser la vapeur. En tout cas, on va suivre ça. On va marquer une première pause sur VOA Afrique. When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight. Alors on va parler à présent de l'autre Ligue des Champions, la Coupe, évidemment, la Ligue africaine des Champions, hein, puisque les 16e de finale commencent évidemment dès demain, et avec notamment un match intéressant pour vous au Gabon, Jules Valentin Ngoué, c'est le CF Mounana. Le CF Mounana qui s'en va au Caire, hein, défier l'ogre Al Ahly. Ça va pas être facile, hein, pour les Gabonais, hein, évidemment, dans la capitale égyptienne. Hein.
Oui, bien sûr, ça va pas être facile pour les Gabonais. Et pas très habitué à rencontrer des tels qui viendraient à ce niveau de la compétition. Et je crois que, ma foi, une telle rencontre se joue un peu plus à l'aller qu'au retour, parce que l'essentiel des données seront déjà bien précises.
Allez, on va essayer, Jules Valentin, on va essayer de, pardon pour la ligne, pardon pour la qualité, on va essayer de vous rappeler. On va parler d'un autre match avec vous, notamment Amdinsi, puisque les Sénégalais de Génération Foot qui sont en déplacement en Guinée chez le Oroya.
Tout à fait, Nicolas Pinon, les Grenats, comme on les appelle, sont en mission commando au niveau de Conakry, puisque la capitale de la Guinée, c'est une terre maudite pour les équipes sénégalaises, puisque à chaque fois que l'équipe sénégalaise se déplace à Conakry, c'est une défaite. Les Guinéens ont l'habitude d'éliminer les Sénégalais. Et cette même équipe de Oroya est devenue la bête noire des clubs sénégalais en Ligue des Champions, puisque Oroya a éliminé l'AS Douala et l'IS Gorée les deux dernières éditions. Et puis il faut dire que Oroya est devenu quand même un grand club au niveau continental, puisque si on regarde au niveau quand même de l'Afrique de l'Ouest, Oroya fait partie des rares équipes qui se qualifient au niveau des phases de poule. Tel n'est pas le cas pour les clubs sénégalais depuis Belle Lurette, puisque le dernier club sénégalais à avoir visité la Ligue des Champions, les phases de poule, c'est la Zamalek de Dakar, et c'était en 2004. Donc l'équipe de Génération Foot aura fort à faire face à cette équipe de Oréa, qui est une équipe qui compose à son sein de joueurs petits talents. D'ailleurs, il y a deux joueurs sénégalais, le gardien de l'équipe nationale du Sénégal, Khadim Diaye, est le porteur de cette équipe. Il y a également Pape Amadou Touré, qui est latéral gauche de cette équipe, qui a eu à être ancré en équipe nationale. Il y a également des internationaux guinéens comme Ibrahim Sonko, Sekou Camara, des Burkinabés, etc. Donc, l'équipe de Génération Foot tentera de créer l'exploit
en ramenant un bon résultat pour pouvoir quand même négocier la seconde phase qui va se dérouler ici au Sénégal. C'est un avantage pour jouer le match retour à Dakar, puisque lors du premier tour, ils ont bien négocié quand même face aux Égyptiens de Nice, Makassar, parce qu'ils avaient battu à Dakar et négocié en Égypte. Mais pour cette partie, ce sera très difficile pour les Sénégalais, Nicolas Pino, parce que les Guinéens partiront là avec la faveur des pronostics.
Évidemment, oui, oui, tout à fait, l'expérience du Roya. On va retrouver Elise Ngpatine à Bouikon, au Bénin, pour parler de Zesco United, évidemment, qui accueille l'ASEC Mimosa. Est-ce que les académiciens vont finalement retrouver un petit peu de leur splendeur, selon vous, en Coupe continentale?
Bon, Nicolas, il faut le dire, puisque cette année, l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier pour les phases de poule, hein, du côté ASEC avec ses nouvelles recrues, notamment le Togolais et Agbédia, qui est d'ailleurs convoqué par Claude Leroy pour la prochaine date FIFA, et le Togo qui va livrer deux belles rencontres amicales, notamment le Burkinabé, hein, l'Ivoirien naturalisé Burkinabé. Il s'agit de Ahmed Touré, qui est le Goliath de cette équipe, le frère de Gervinho et Fonseca, lui aussi qui a été transféré du côté de Williamsville. Donc, il dit que l'objectif était là, mais face aux Béninois, les buffles de Parakou, et ça a été très difficile, surtout le match retour au stade Félix Houphouët-Boigny, où les Ivoiriens se sont arrachés pour se qualifier grâce à ce but délibérateur de Ahmed Touré à la 88e minute d'Ahmed Touré, j'allais dire tantôt. Donc, c'est-à-dire que face à ces ambiances de Zesco United expérimentés, puisque cette équipe a déjà pris part à la phase finale de la Ligue des Champions la saison écoulée, ce sera. Mais l'avantage est que la SEC ira jouer le match aller du côté de Ndola, le stade Moana Kasso, le stade fétiche des Zambiens. Donc ça va être un peu le match aller où les Ivoiriens doivent limiter les dégâts, puisque déjà ils ont foulé le sol zambien, c'était le samedi dernier. Donc ils ont pris très tôt les choses au sérieux pour pouvoir bien s'acclimater, histoire de bien négocier le match aller maintenant face à ces Zambiens qui, depuis près de plus de 5 ans, commençaient pas à s'afficher sur le continent africain. Ce sera difficile, mais pas impossible pour la bande à Mani Yao, qui a repris seulement cette saison l'équipe des Mimo.
Merci beaucoup avec nous, Elise Ngpatine. On va prendre un premier auditeur qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire, c'est Yaya Berthe. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors évidemment, on va parler avec vous. L'ASEC Mimosa, vous avez un avis sur ce match face aux Zesco?
Oui, je pense que l'ASEC va gagner 2-0. Hein.
D'accord, et alors vous?
C'est mon avis.
Et alors, concernant le match incroyable qui s'attend à Paris, évidemment, Paris-Real, vous misez plutôt madrilène ou plutôt parisien?
Parisien.
Pourquoi?
Parce que je vois que Paris a une belle équipe qui fait des choses, hein. Donc je me suis Paris.
Et Neymar, c'est une bonne chose ou pas finalement, selon vous, qu'il soit absent? Est-ce que ça va permettre à l'équipe d'avoir une autre stratégie?
Oui, je pense qu'ils vont avoir une autre stratégie que la joueur à Neymar. Ils vont avoir des choses, ils vont avoir des ressources. Je pense que ça va aller. On va peut-être faire le reste.
Eh bien, écoutez, on verra ça demain. Merci beaucoup, hein, Yaya, de nous avoir appelé depuis la Côte d'Ivoire, où vous écoutez notamment VOA Afrique en FM à Abidjan. On va marquer une nouvelle pause dans ce Sporama. On se retrouve dans quelques instants. Allez, un mot pour vous dire que c'est ouvert aujourd'hui au Maroc, un nouveau symposium de la CAF. Il y en a beaucoup depuis le début de la présidence Ahmad. Cette fois-ci, c'est sur le football féminin pour un petit peu redynamiser au sein de la Confédération africaine de football, avec la présence notamment de la Sénégalaise et secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura. On vous donnera les conclusions, ça se termine notamment mercredi. On va ouvrir un autre chapitre à présent, on va ouvrir le chapitre athlétisme, puisqu'il y avait les mondiaux en salle qui ont eu lieu à Birmingham, évidemment, c'était en Angleterre. Et ça a plutôt bien marché pour les Africains, avec des belles médailles d'or. On va peut-être évoquer avec vous, Yacouba Ouédraogo, notamment le doublé ivoirien chez les femmes, sur 60 mètres.
Il fallait s'y attendre. Et c'est plutôt peut-être Marie-Josée Talou qui était mieux attendue par rapport à Muriel Aouré, qui avait disparu depuis un certain temps. Mais c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire, que ce soit Muriel ou encore Marie-Josée qui arrive en première position. C'est déjà un doublé, c'est historique pour le continent d'avoir deux filles, hein, deux dames comme ça, deux grandes dames d'un même pays pour ce doublé-là. Mais je pense que la Côte d'Ivoire commence quand même à s'afficher très sérieusement sur le plan de l'athlétisme. On a vu avec des garçons comme Meïté, Atu Cissé, la nouvelle perle haute. Et donc, moi, je pense que ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est un travail qui est fait. Et donc, Muriel Aouré et Marie-Josée Talou qui matent le coup, c'est vraiment important et très historique pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain.
Et bonne pioche également pour le Burundi, hein, qui a réussi le 800 mètres, hein, évidemment, la Francine Niyonsaba. Hein.
Tout à fait, oui. Francine Niyonsaba qui a réussi le 800 mètres, il faut le rappeler aussi, en l'absence hein, de l'incontestable numéro 1 de la spécialité, Castel Semeya, médaille d'or olympique et mondiale. Et donc, c'est sa dauphine aux JO et aux mondiaux qui réussit ce coup-là. Et je pense que c'est tout à l'honneur aussi du Burundi dans la mesure où on n'entend pas trop le Burundi quand on parle du sport. Hein. Et donc, c'est un gros coup pour elle, c'est un gros coup aussi pour son pays et pour le continent.
Jules Valentango, qu'on a retrouvé à Libreville, on a réparé notre téléphone. Ces résultats africains au championnat du monde, qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, mais c'est un peu que, qu'est-ce que je dirais, de la joie et surtout un constat également, c'est que la plupart de nos sportifs sont formés dans de bonnes, meilleures conditions que dans le passé, puisque pour en fait ceux qui sont à ce niveau mondial là, tous pratiquement se préparent en Europe et résident en Europe ou en Amérique. Donc je crois que des pays de sprint comme la Côte d'Ivoire reviennent au premier plan. Et on entendra sûrement parler encore des Nigériens ou des Ghanéens.
Et on va noter également que l'Éthiopien Samuel Tefera a été sacré champion du monde, évidemment sur 1500 mètres, vainqueur en 3 minutes 58 secondes et 19 centièmes devant un Polonais et notamment le Marocain Abdelati Iguider. On va donner la parole évidemment à Élisée Oumpatine. Élisée, sur ce doublé, on va revenir à ce que disait Yacouba, ce beau doublé hein, de l'athlétisme ivoirien hein, sur 60 mètres notamment. Hein.
Oui, très bon doublé, il faut le signaler, puisque depuis un certain moment, eh bien, cette Ivoirienne peine hein, devant surtout la Jamaïcaine, Alicia, qui s'impose parfois sur les 100 mètres. Il faut dire qu'après le sacre, eh bien, Muriel Aouré a dit que c'était un moment inoubliable pour elle, puisque elle a déjà pris de l'âge et que ce moment ne sera jamais aggravé dans sa mémoire. Donc, c'est dire que c'est un moment inoubliable, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le continent. Donc, on aurait pu avoir aussi une autre médaille, un côté ivoirien, surtout au niveau des 100 mètres, de 60 mètres, j'allais dire, avec Ben Youssef, qui aurait pu remporter une médaille pour la Côte d'Ivoire, mais c'était sans compter sur les habitués qui sont allés très, très vite. C'est-à-dire que ces mondiaux en salle ont permis aux Africains, une fois encore, de s'exprimer, de monter de quoi ils sont capables, même s'il reste encore à mieux faire du côté du sur le continent africain.
Merci beaucoup. Alors on va à présent passer à un magazine, évidemment. On parle souvent des résultats, mais là on va avoir un petit coup de projecteur sur une région qui m'est chère au Sénégal. C'est la Casamance, c'est la plus belle des régions. On va parler du club de foot de Ziguinchor, le Casasport. Le stade, c'est évidemment à l'Incitoé Diatta. On est dans le sud, évidemment, du Sénégal. Et on va revenir sur l'histoire de ce club hein, et de cette région qui, depuis 35 ans, évidemment, est un petit peu assombrie par le conflit sur place. Mais le Casasport, ça reste le grand club de la région. On suit ce reportage de notre correspondant à Dakar qui s'est rendu en Casamance. On écoute sur VO Afrique ce reportage de Seydina Abagay.
En juillet 1980, l'équipe accède de nouveau à la finale de la Coupe du Sénégal et espère conserver sa couronne face à la Jeanne d'Arc, autre club phare de Dakar. Malheureusement, le rêve vire au cauchemar. Les sudistes estiment que l'arbitrage favorise les Dakarois et la finale est émaillée d'incidents. Ces heurts sont perçus comme les prémices de la crise en Casamance et les supporters du club en feront les frais dès le début du conflit armé. Noah Cissé, historien et président du Casasport pendant 13 ans, ravive ce douloureux souvenir.
Le Casasport a été une structure martyre dans ce conflit. Parce que quand le conflit a éclaté, dans cette politique du tout sécuritaire qui consiste à mater, à traquer, à poursuivre partout, malheureusement, à un moment donné, on s'est rabattu sur les comités de supporters de Casasport en disant effectivement que ceux qui y étaient adhéraient à la rébellion. Et malheureusement, des listes de comités de supporters tombées aux mains des forces de sécurité avaient entraîné par endroits une répression féroce. sur les gens.
Après cet épisode, le Casasport va connaître une véritable descente aux enfers. Le club plonge en deuxième division et flirte avec la troisième division pendant une quinzaine d'années. Il faudra une mobilisation exceptionnelle des fils de la région sud pour redonner des couleurs au club qu'ils considèrent comme leur identité. Siaka Boyan, secrétaire général du CASA, se confie au micro de VOA Afrique.
Mais nous avons connu des moments difficiles liés à cette crise dite casamanceaise. Les fils de la Casamance ont été obligés de...